partir à Rennes, une semaine, et j'annule.
Des voyages annulés encore aujourd'hui, très légère amélioration du trafic, mais le mouvement social continue. Point complet sur la circulation des trains en direct dans un instant.
Nous irons à Londres également dans cette édition, rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1 auprès d'une population britannique qui se trouve aujourd'hui entre impatience, lassitude et division aussi après le nouveau coup de théâtre sur le Brexit. Il y aura peut-être un report. Et peut-être pas.
Le coq gaulois va-t-il vaincre sa peur du poireau gallois à 1h15 du quart de finale Pays de Galles-France? Notre consultant rugby Eric Blanc en direct dans ce journal.
Est-ce que tu as déjà hurlé? Hurle mon ami.
Ah là là, j'ai oublié de préciser que ce qu'on vient d'entendre, ce sont des enfants d'à peine 5 ans. Ils ont assisté à un concert de musique métal hier, une initiation au métal pour les enfants. Reportage à suivre à la Chapelle sur Erdre en Loire-Atlantique. Passez un très bon dimanche à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Ce n'était vraiment pas le bon week-end pour prendre le train. Vacances de la Toussaint ou pas, ce dimanche est le quatrième jour du mouvement des contrôleurs et conducteurs qui veulent alerter contre les risques de sécurité dans certains trains.
Marion Gauthier, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris pour Europe 1. Vous êtes en direct. Un petit peu plus de trains circulent aujourd'hui par rapport à hier. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le confirmer ?
Oui, oui, effectivement, ça circule davantage. Un Ouigo sur trois. Et quelques soupirs quand les panneaux affichent supprimés. Les malchanceuses se dirigent résignées vers les guichets, forment une petite file d'attente au trait tiré comme Isabelle.
Les parties de bonheur de chez nous, je devais partir à Rennes une semaine et j'annule. On va rentrer chez nous.
On a que ça vert.
Et encore peu de gilets rouges pour renseigner les voyageurs égarés, mais tous sont plus ou moins prévenus, explique Charlène, venue un week-end à Paris.
Je l'ai vu du coup juste en regardant mes emails avant. Et je me suis dit, je vais regarder sur Google ce qui se passe. Et en fait, sur Internet, ils disaient de regarder nos emails pour voir si les Ouigo étaient supprimés. En fait, c'est devant la gare que j'ai ouvert mes emails et que je me suis rendu compte que le train était supprimé. Donc, pas une grande surprise quand j'ai vu que c'était supprimé sur le panneau d'affichage. Mais déjà, c'était compliqué de venir et c'est encore plus compliqué de repartir. Donc, c'était vraiment pas le bon week-end pour venir à Paris.
Mais en région parisienne aussi, c'est compliqué. Didier qui a atterri ce matin.
Nous sommes arrivés à l'aéroport de Charles de Gaulle et c'est là où on a découvert qu'effectivement il y avait des gros problèmes de trafic, il y avait grève. Il était indiqué sur les panneaux qu'il était préférable de ne pas essayer de prendre le TER. Donc on a pris un taxi, 55 euros.
Mais c'est le calme encore ici, mais tous attendent plus d'informations.
Marion Gauthier en direct de la gare Montparnasse à Paris. On rappelle donc qu'un Ouigo sur trois circule contre zéro hier. Ce matin, la SNCF précise que les Transiliens et les RER, donc en Île-de-France, sont très perturbés.
Ce matin, dans le journal Le Parisien, le secrétaire d'État aux transports parle, je cite, d'un mouvement qui semble organisé de façon collective par les syndicats, dont la CGT. Jean-Baptiste Djebbari, c'est le nom du ministre, menace. Il pourrait y avoir différents degrés de sanctions. Par ailleurs, si vous n'avez pas pu prendre votre train ces derniers jours, depuis vendredi, vous serez remboursé dans les conditions prévues par la SNCF. C'est ce que confirme le secrétaire d'État.
Il y a donc les gares sans train, la grève sans préavis et il y a au Royaume-Uni un Premier ministre sans majorité et un Brexit sans fin. Nouveau rebondissement ahurissant hier avec un Boris Johnson qui envoie deux lettres à Bruxelles. L'une officielle mais non signée demande un report du Brexit car le Parlement de Westminster a obligé son Premier ministre à le faire. Et la deuxième lettre, signée celle-ci, explique qu'il ne veut pas de ce report.
Ouais, comprenne qui pourra. Imaginez donc dans quel état d'esprit se trouvent les Anglais, perdus par ces allers-retours de leur politique. Hier, on a vu des centaines et des milliers de personnes dans les rues de Londres défiler contre le Brexit. Mais il y a aussi ceux qui ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Dans ce camp-là, reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Pauline Jacquot.
Au mégaphone, Kayleigh répète sans cesse les résultats du référendum. En 2016, les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union européenne. Il est grand temps d'appliquer ce vote, dit-elle, partir et tourner la page.
Je suis dégoûtée car ce Parlement ne fait que bloquer le Brexit. Il n'y a plus de démocratie s'il ne respecte pas le vote du peuple qui était de quitter l'Europe. Je suis épuisée par cette attente, nos amis européens aussi.
Lassitude aussi du côté des opposants au Brexit. Face à ces deux femmes, Jason hausse le ton. Si l'on veut en finir, affirme-t-il, c'est le peuple qui doit désormais décider.
Where we are today in Parliament is ridiculous.
Ce qui s'est
s'est passé au Parlement aujourd'hui, c'est ridicule. J'ai presque honte d'être britannique en ce moment. On est là 3 ans et demi après. 3 ans et demi après et on a un Parlement qui ne comprend toujours rien au Brexit. C'est pour ça qu'il faut un deuxième référendum. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra retrouver un sentiment d'unité au Royaume-Uni.
On a l'impression que nos politiques prennent tout ça à la rigolade, souffle une manifestante. Sauf que c'est de notre futur qu'il s'agit, le nôtre et celui de nos enfants. Londres, Pauline Jacquot, Europe 1.
Et Brexit dans 10 jours ou dans 3 mois. Ce matin, on s'intéresse en tout cas et de très près au Pays de Galles. Car c'est l'événement sportif du week-end, le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Le coq du 15 de France face aux poireaux du Pays de Galles. Le coup d'envoi sera donné dans un peu plus d'une heure.
Bonjour Eric Blanc.
Bonjour.
Vous êtes le consultant rugby d'Europe 1, les Gallois. Bon, bah les Gallois, on le sait, hein, c'est la deuxième meilleure équipe du monde actuellement. Ils ont gagné très facilement le tournoi des Six Nations récemment. La France, selon vous, peut-elle déjouer les pronostics? Vous allez me dire, bah, c'est du sport, donc oui, tout est possible. Mais est-ce que vous y croyez?
Ça va être très difficile parce qu'on a trop d'incertitudes et des fuites d'eau dans notre jeu. Donc on est un peu comme à la SNCF, service minimum, pourvu qu'ils ne fassent pas grève cet après-midi. Mais il va falloir, je dirais, du courage, de la cohésion, s'inspirer du programme commun de Georges Marchais en 75, se battre, essayer d'être pragmatique, parce qu'en face de nous, on a une équipe qui joue très bien au ballon, qui se déplace. C'est le Gatland Bowl, c'est une équipe formatée pour aller au bout, pourquoi pas. Ouais. Et cette équipe de France, elle est jeune, il y a un mixte. On a eu un match qui a sauté, c'est les Anglais. On a peut-être un peu plus de fraîcheur, on s'est reposé. L'Angleterre, en tout cas, a prouvé qu'elle pouvait pratiquer un grand rugby, mais ça, on le savait. Hier, hein. Mais avec un match en moins devant l'Australie. Maintenant, cette équipe de France, on espère Dupont, on espère Penaud, mais on n'a pas de certitude. Il va falloir, je pense, prier dans nos églises rugbystiques à 9h15. Mais après, je suis d'accord avec vous, l'exploit existe toujours.
Au-delà d'aller prier dans les églises rugbystiques, quelles peuvent être les failles galloises?
Bah, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire, parce que c'est un mur rouge. Les 8 derniers matchs, ils nous ont battus 7 fois. On a gagné une fois. C'est vrai qu'on a mené 16-0. C'est une équipe depuis 2008 qui a fait 3 grands chelems. C'est les baby boomers, champions du monde en 2011 chez les juniors. Vous avez George North, une bigarre à l'ouverture avec Davis, une troisième ligne de tueurs, de titans. Après, maintenant, cette équipe de France...
Ça fait peur. Non, mais cette équipe... Est-ce qu'on va vraiment jouer ce match?
C'est le terme rugbystique, mais on les joue parce qu'on est obligé d'être les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs mofs. Il va falloir... avoir des révoltés, des joueurs qui ont aussi du talent par intermittence. Maintenant, il faut que ça dure durant 1h30 et c'est la grande question que se posent tous les amoureux, je dirais, du rugby et tous les supporters de l'équipe de France. Vont-ils être capables de tenir 80 minutes? Rendez-vous à
11h30. Merci beaucoup Eric Blanc, consultant rugby d'Europe 1 en direct avec nous ce matin. J'en propose pour rajouter un petit mot, avec le journal du dimanche aujourd'hui, vous aurez gratuitement un supplément qui s'appelle Bougeons les lignes. C'est un supplément donc gratuit consacré à la Coupe du Monde 2023 qui va se jouer en France. Comme chacun sait, ce sont 32 pages qui sont bien foutues, je dois dire, pour comprendre pourquoi et comment ça va être un grand moment de sport. Et pas seulement de sport, et puis on espère évidemment qu'ils iront loin aussi dans cette Coupe du Monde 2023.
8h08 sur Europe 1.
Dans un instant, direction le Liban, où des dizaines de milliers de personnes manifestent depuis plusieurs jours contre la corruption des partis politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir.
Europe 1.
Reprise de l'actu avec François Geffrier et Bernard Porrette.
On reprend avec cette question, François. Le gouvernement du Liban va-t-il chuter face à la contestation? En effet, des dizaines de milliers de manifestants sont dans les rues depuis 3 jours contre la corruption.
Et l'un des partis qui forment le gouvernement mené par Saad Hariri vient d'annoncer qu'il le quittait. Écoutez le témoignage d'Hussein, un habitant de Beyrouth qui a 26 ans et qui veut en finir avec le vieux fonctionnement des élites.
Pour moi, c'est une révolution parce que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis 30 ans, depuis la fin de la guerre civile, que le peuple libanais sont dans les routes. On est là, on est dans la rue pour changer ce régime corrompu, c'est ce régime confessionnel qui nous vole chaque jour et qui rend notre vie misérable. Il n'y a même pas les trucs basiques de la vie normale. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas les infrastructures. Il faut payer tout. En fait, l'État donne rien aux citoyens. Et c'est plus comme ça que le peuple libanais veut vivre. Tout le monde va aller aux manifestations et on est là jusqu'à ce que ça change.
Un habitant de Beyrouth joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Deux autres informations internationales. En bref, d'abord, on vient de l'apprendre, un soldat turc a été tué en Syrie dans une attaque des forces kurdes.
Et puis au Chili, crise sociale majeure, des manifestations là aussi, mais qui ont dégénéré en émeute.
On compte 3 morts dans l'incendie d'un supermarché saccagé cette nuit. Un couvre-feu total a été décrété. Le gouvernement fait marche arrière aussi sur le symbole de cette contestation, la hausse du prix du ticket de métro. Retour en France, à Belfort, où 2600 personnes ont affiché leur soutien hier aux salariés de General Electric, menacés par un plan de suppression de plusieurs centaines d'emplois.
On vous en parlait dans les titres de ce journal. C'est un public très très inhabituel pour ce type de musique, en l'occurrence des enfants tout jeunes, à un concert de musique métal.
Oui, à un âge où d'habitude on apprend des petites comptines du genre une souris verte, gna, bien, gna, gna. Hier après-midi, vous le faites très bien. À la chapelle sur Erdre, non loin de Clisson, où se tient chaque année le Hellfest, le festival de musique métal, la salle du Jam proposait donc cette initiation suivie pour Europe 1 par Ronan Coquelin.
Guitare saturée, batterie survitaminée, cris déchirants, vous êtes bien, un concert de musique métal. Petite particularité, l'âge des spectateurs.
Je m'appelle Eline, j'ai 5 ans. J'ai 6 ans. J'ai 7 ans.
Bienvenue au Metal for Kids, un concert de métal adapté aux enfants. Volume moins fort, bouchons d'oreilles et casque à disposition.
Est-ce que vous êtes avec nous ?
Une heure de show entrecoupée d'interventions. Un animateur explique les codes d'un concert de métal.
Est-ce que tu as déjà hurlé hurle, mon ami ?
Découvrir de façon ludique un style de musique qui peut parfois effrayer, c'est l'objectif de cet événement. Il y a moins d'une heure, Léonie et Sacha ne connaissaient pas le métal.
C'était trop bien. J'ai sauté sur la scène et c'était drôle.
T'es devenue une fan de métal ?
Ouais.
Est-ce que c'était pas trop fort ?
Non, parce qu'on avait les casques.
Arthur, 8 ans, a encore du mal à se remettre de son premier passage sur scène.
J'avais l'impression d'être adolescent. J'ai vraiment aimé, surtout à la fin. Je me dis que j'ai assuré.
Une première approche du métal réussie, avec dans la salle peut-être les futurs spectateurs du Hellfest. À la chapelle sur Erdre, Ronan Coquelin, Europe 1.
Et à 8h13, on parle sport avec François Geffrier.
François, la principale actualité sportive du jour, c'est le rugby, bien sûr. Il ne nous reste plus qu'une heure exactement à patienter.
Vous avez entendu notre consultant Eric Blanc. Les Bleus vont devoir sortir un grand match pour se défaire du Pays de Galles, deuxième meilleure nation mondiale en ce moment, et ainsi atteindre les demi-finales. Pays de Galles-France, c'est donc à 9h15, heure française.
On rappelle qu'hier, la Nouvelle-Zélande a étrié l'Irlande 46-14 et que l'Angleterre a sorti l'Australie 40-16. On va donc assister samedi prochain à une première demi-finale de ce mondial. Angleterre, Nouvelle-Zélande.
En attendant, revenons sur l'après-midi et la soirée de Ligue 1 de football. Rudy Garcia commence sa mission d'entraîneur de Lyon par un match nul 0-0 à domicile face à Dijon. Et il a reçu les sifflets des supporters lyonnais.
Comme je disais avant le match, on préfère tous être bien accueillis positivement et appréciés. Mais c'est pas important. L'essentiel, c'est que les joueurs aient été soutenus tout le match, ce qui a été le cas, comme ça avait été demandé, y compris par le président Aulas. Puis après, si ça convient pas en termes de résultats ou en termes de contenu, c'est normal que le public manifeste son mécontentement. Mais encore une fois, j'aurais tellement aimé... on pouvait pas finir plus offensif, j'avais plus d'attaquants sur le banc. Donc j'aurais bien aimé que ça se décante... sur la fin, et puis finalement, ça l'a pas fait.
Rudy Garcia au micro de Maxime Choche pour Europe 1.
Et les autres résultats d'hier, les voici. Un partout entre Nîmes et Amiens, victoire de Toulouse qui recevait Lille 2-1, et victoire de Reims qui accueillait Montpellier 1-0, Metz a battu à domicile Nantes 1-0, et Brest en déplacement à Angers l'a emporté également 1-0.
Et puis en Ligue 2, Le Havre et Lorient ont fait match nul 2-2. Ce soir en Ligue 1, l'OM affronte Strasbourg et malgré le manque de résultats depuis un mois, l'entraîneur marseillais André Villas-Boas maintient son objectif d'accrocher le podium.
J'ai déjà mis toute la pression sur moi-même de qualifier cette équipe pour le podium. On reste à 3 points du podium. Évidemment, on a raté plusieurs opportunités. Ça, c'est toujours la responsabilité du coach. Mais ça n'augmente pas la pression que j'ai mis sur moi-même. L'objectif reste établi pour la saison. À la fin de la saison, je le rate, je suis le responsable. Et après, c'est à la direction de faire la décision si on continue ou non. Mais c'est comme ça. Pas d'inquiétation, pas de pression en plus, parce que la pression, je mets toujours sur moi-même pour la responsabilité du travail que j'ai dans mes mains.
André Villas-Boas avec Stéphane Frangy pour Europe 1. Marseille-Strasbourg, c'est à 21h en direct sur Europe 1. Il y aura auparavant Bordeaux-Saint-Etienne à 15h et Monaco-Rennes à 17h.
Et en biathlon, Martin Fourcade est de retour.
Le multiple champion olympique et champion du monde est en train de préparer la nouvelle saison. Après une année compliquée, Martin Fourcade confirme à Europe 1 qu'il fera le bilan à l'issue de la saison qui va s'ouvrir pour savoir s'il prend sa retraite en 2020 ou pas.
La dernière course de la saison pourrait être la dernière course de ma carrière, mais comme ça aurait pu être le cas après les JO de Pyeongchang, et c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que je me projetterai pas à me dire tout au long de l'hiver, ce stade c'est le dernier sur lequel je viens, tout simplement parce que je pense que j'ai vraiment besoin d'être à la fin de la saison pour pouvoir prendre ma décision en ayant fait le bilan, voire même peut-être après la saison, après une période de réflexion. Pour l'instant, je suis concentré sur la saison avec l'envie de bien faire. Ce qui est sûr, c'est que je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début.
Martin Fourcade au micro Europe 1 de Corinne Boulot.
Ça, on le savait, hein, qu'il est plus proche de la fin que du début. Merci beaucoup François Geffrier, présenté 8h.